Journée. Comment dire
Dévoyée.
L'erreur de leur foi fait que leur culte est erroné. Ça ne veut pas dire que le culte, ce n'est pas les sacrifices. Et si on n'offre pas les sacrifices, ce n'est pas parce qu'il y a eu une soi-disant évolution des mœurs, c'est parce que le temple est détruit. Et c'est clair, le petit train est arrivé. Et je te cite le Rambam. Hein. Alors il faut bien faire attention à cela. Je vous donne un exemple. Abraham priait. Et Abraham offrait des sacrifices. Alors vous croyez qu'Abraham était un primitif idolâtre? Réfléchissez. Non, quand vous avez l'impression que ce que vous lisez chez un théologien comme le Rambam du Mishneh Torah semble être en contradiction avec la Torah, alors c'est peut-être qu'on n'a pas compris le Rambam. C'est tout. Et c'est pourquoi, pour économiser du temps, je te dis, le Rambam a écrit dans le Mishneh Torah ce que j'ai cité tout à l'heure. Et encore une fois, le Rambam, il n'y a pas deux Maïmonides d'un côté et d'autre part le Rambam, c'est le même rabbin. On n'oublie pas que Maïmonide était croyant, c'était un juif. Parce qu'on parle de lui comme si c'était un aristotélicien débrouillé.
Non, ça je
ne
crois pas.
Attendez, j'ai pas vu, j'ai oublié. Non, il faut que ça me revienne. Attends, à quoi on disait juste avant, par association d'idées, ça va me revenir.
C'est dans
l'ensemble
des nouvelles, il dit très clairement
qu'il s'agit là. Non, mais très clairement, n'est pas à sa place, après ce que je viens de dire. Maintenant, si tu veux, on tire le livre. Réfléchis bien. Je vous donne un exemple. Vous avez dans Jérémie un chapitre extraordinaire contre les sacrifices. Donnez-moi Jérémie 1, chapitre 7.
Oui, j'avais marre de sacrifices.
Voilà. Je ne veux pas de sacrifices. Et Jérémie était un prêtre sacrificateur, entre guillemets, et maintenant, allez, les sacrifices, c'est l'heure. Quelle contradiction. Voilà ce que Jérémie dit. Je ne vous ai pas demandé de faire des fautes pour avoir à faire des sacrifices d'expiation. Je vous ai demandé d'écouter ma voix. Faites pas de fautes. Quand vous avez fait des fautes, faites des sacrifices. C'est tellement clair et cohérent. Bon, c'était une querelle de théologiens, entre théologiens chrétiens et théologiens juifs. Au Moyen-Âge, qui a imprégné tout ce problème, et alors avec ce postulat qu'il y aurait une évolution de la conscience religieuse, qui passe d'un stade primitif, les sacrifices, à un stade évolué, la prière, jusqu'à un stade surévolué, l'athéisme. Mais encore une fois, c'est pas... quand je vois un non-juif prier, c'est pas une raison pour me dire, eh bien moi je prie plus. Vous savez qu'il y a beaucoup de juifs qui tombent dans ce piège, Ken. Ah, les goyim font comme ça, alors c'est interdit. Azman.
C'est pas...
J'ai dit beaucoup de juifs. J'ai étudié cette première question, j'étais très jeune, je me rappelle, dans ce fameux thème tarte à la crème, justice et charité. Ah, on a entendu dire que les chrétiens parlent de la charité. Charité, c'est pas bien. Justice. C'est une ignorance absolue. Est-ce que c'est clair? C'est juste. Allez, soyons charitables. Alors, méfiez-vous de ça. Top. Et quelle heure il est? Que je vois.
7h15.
Ah oui, il y avait une question.
La question c'était, ça va, ça allait un petit peu dans le même sens, parce que finalement la question c'est est-ce que c'est des sacrifices? Je prendrais par. Les premiers sacrifices ont été faits comme si ça venait de l'homme, ce n'était pas commandé par Dieu, ou les sacrifices de Caïn et Abel, c'est venu d'eux. Donc c'était un peu trop dans le même sens que finalement c'est peut-être une réaction d'un besoin de l'homme et peut-être pas forcément.
C'est peut-être.
La question est qu'est-ce que c'est que les sacrifices?
En tout cas, c'est pas le fils sacré. Mais je vous ai dit tout à l'heure que c'est un sujet tellement important qu'on consacrera un séminaire là-dessus. Parce que si je commence maintenant, on n'aura même pas le temps de commencer le commencement. Je veux dire ceci. C'est le mot de besoin qu'il faudrait un peu modifier. L'homme de bonne santé, authentique, c'est que la liturgie par excellence, la avoda en hébreu, c'est... est toujours relié au geste de nourriture. parce que la nourriture qui donne la vie. Il y a un chapitre très important du Maharal qui à propos du Birkat Hamazon, qui dit pourquoi pour la halakha, le Birkat Hamazon est une mitzvah plus importante que la tefila à la synagogue. Et on parlera de ça dans ce séminaire si on le met sur pied. Ça veut dire que le geste spontané et authentique de l'homme entreprenant un culte, c'est le sacrifice de nourriture, à travers la nourriture. Et encore une fois, je reviens sur un point de la réponse que je donnais à Moshe, c'est que lorsqu'il y a, je donne un exemple d'ailleurs, Caïn et Abel, quoique c'est le premier homme qui va faire les premiers sacrifices, lorsqu'il y a, un dévoiement de la conception de la foi, alors le sacrifice prend un tout autre sens, interdit par la Torah. Et je dirais ça en commençant, tant que l'homme mange pour vivre, pour être, la véritable avoda concerne la nourriture. Et avant de se poser la question qu'est-ce que c'est que le sacrifice, il faut d'abord se poser le problème qu'est-ce que c'est que la nourriture, le fait qu'il faille manger pour vivre. Je ne sais plus, je crois que c'est Corneille qui disait, Molière, on va inverser la formule, mais d'abord il faut découvrir cette espèce de mystère, qu'il faille manger pour vivre, c'est-à-dire pour être. S'il me manque l'aliment, et l'aliment c'est finalement quoi ? Des glucides, des lipides avec un petit peu d'eau, la présence de la conscience disparaît. La conscience tombe en syncope. Ça veut dire que toutes les valeurs de la personne humaine dépendent d'un morceau de pain. Rappelez le verset, ce n'est pas de pain seulement que... Je me rappelle un de mes maîtres, il disait comme ça avec un sourire, il faut mettre du beurre dessus. c'est clair, il faut d'abord découvrir cela. J'ai exploré tout ce que j'ai pu comme source philosophique dans le monde de la philosophie pour essayer de savoir ce que les philosophes ont dit de ce mystère. Et j'ai l'impression qu'il y a un tabou sur ce problème. Les philosophes ne parlent pas de ce mystère. Que la valeur de la pensée, de la conscience, des émotions, des vertus, tout ça dépend finalement de quoi ? Du fait qu'il faille manger et boire. Okay. Et bon, je pouvais proposer des raisons pour lesquelles les philosophes n'osent pas toucher à ce problème-là. Mais faites jeûner un philosophe, la philosophie vieillit. comment dire ? Ah oui, il faut d'abord découvrir ça. Et alors, par ce biais, on découvre, entre autres, c'est la seule chose que je citerai pour arriver à ta question, que le fait de manger, c'est l'acte sacré par excellence. Il faut mettre sacré entre guillemets. Le fait de manger, avant même de parler de manger cachère ou pas, et d'ailleurs c'est parce que le fait de manger est important qu'on mange comme ça et pas autrement. C'est clair ce que je veux dire. Et le fait de manger continue le fait de création. Je n'ai pas été créé en tant que créature une fois pour toutes. J'étais créé comme être économique. Comme homo economicus, donné au problème économique qui a pour objet de m'assurer la nourriture, c'est-à-dire la subsistance dans le sens strict du terme. C'est la continuation du fait d'avoir été créé. En mangeant, je suis de nouveau dans la situation de la créature à peine sortie des mains du Créateur, proche de lui. Ça, le moderne a complètement perdu cette... Encore une fois, je reviens aux paysans, parce que quel que soit leur paganisme dévoyé, ils ont gardé les paysans de quelque pays que ce soit. Paysan, c'est l'homme d'un certain paysage. Et alors, même en français, ça a pris un sens un peu négatif, paysan, dans le sens béotien. Okay. Mais l'acte de vie du paysan, c'est l'acte noble de l'homme authentique. Son métier, c'est d'assurer la subsistance. Et c'est pourquoi le paysan garde toujours une religiosité beaucoup plus proche des origines. Et pour nous, c'est le Khalout. C'est pas pour rien que lorsqu'Israël s'est restauré comme société renormalisée, le héros, c'est le Khalout. C'est pas pour rien. Vous comprenez un peu ce que je veux dire. Et, bon, les kibboutzim ont des problèmes, ça on sait aussi pourquoi. On sait aussi pourquoi. Bon, c'est une histoire de Hystadrout, encore une fois, mais il n'y a pas de doute qu'il n'y a pas là une coquetterie de l'histoire, que la réhabilitation de l'identité juive se soit faite par les kibboutzim, c'est pas pour rien. Okay. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire? Donc, et d'ailleurs, tout le monde le ressent plus ou moins. Dès qu'on dit Israël, dans le sens des Israéliens, on voit tout de suite le chalout. Et le chalout, ça a tous les métiers que vous voulez en plus. Il peut même être, comme on dit, même à la Macron, Rochamé. Mais c'est quand même le paysan. Donc, c'est pas seulement un paysan qui cultive, c'est pas interdit d'être un paysan cultivé, mais quand même, c'est quand même un paysan. Et alors il en résulte que elle est devenue hermétique à la signification du fait que la Avoda, la liturgie fondamentale, c'est ce qu'on appelle en français le sacrifice, entre guillemets, parce qu'on a perdu le sens de la vie, tout simplement, et que la religiosité fondamentale est reliée d'abord au vœu de nourriture. C'est pas pour rien que les grands thèmes liturgiques de toutes les traditions religieuses sont reliés à un vœu de nourriture. Est-ce que c'est clair? Bon, c'est d'abord cela qu'il faut redécouvrir. Et je crois que la psychologie moderne a un peu entrevu cette importance du lien à l'origine de la vie. Je crois que ça s'appelle, j'ai oublié ces termes techniques, le stade oral. Monsieur Kazikin, oui. Et voilà. Alors, à partir de cette introduction, alors on comprend pourquoi la Torah considère comme tout à fait normal, et je dirais bien que les idolâtres, entre guillemets, vivent aussi, normalement à leur manière, que la Avoda, et en particulier la Avoda d'expiation, c'est ce qu'on étudiera plus en détail, se fait à travers ce qu'on appelle un sacrifice. Mais qu'est-ce que c'est un sacrifice? C'est un repas. Un repas complet, avec en plus le parfum, parce que, un repas sans parfum, c'est pas un repas. Certaines mères de famille savent encore cela, et parfument la salle à manger avant le repas. Je sais pas si ça se fait encore chez vous. Vous savez, dans les anciennes familles en Afrique du Nord, on avait un machin comme ça, on mettait la fleur d'oranger. L'encens, c'est autre chose. Comment on disait l'encens? L'encens en arabe, j'ai oublié. Non.
L'encensoir.
Ça, c'est au Maroc. Et non, l'encens, c'est encore autre chose. Mais je me rappelle très bien que on parfumait la... Du santal, il y a fait. On parfumait la salle à manger avec de la fleur d'oranger. Je me rappelle très bien. Même en Tunisie. Et alors, je reviens à vous. Et au problème. Et... Donc, je crois qu'il faudra faire un sacrifice sur là. J'ai laissé mes livres. Bien, il n'y a pas d'autres questions? Ok.
Pour revenir à l'idée que vous avez dit que le septième jour, c'était le jour de l'histoire de l'homme qui préparait ce fameux huitième jour, vous me référez à un cours que vous aviez fait la semaine dernière, quand vous parliez que finalement, les Toldot, oui, n'existait pas au niveau de l'humanité. C'est-à-dire que finalement, les Toldos Noir, que l'homme n'a pas évolué sur le plan de la moralité par rapport à ce qu'il était au départ.
Là, une minute, une petite parenthèse, je ne faisais pas allusion à la moralité, mais à la mutation d'identité humaine, c'est plus large que simplement la moralité, vers l'engendrement du Fils de l'homme. C'était de ça qu'on parlait. Okay.
Je voulais savoir de quelle manière on peut concevoir ce septième jour. On devrait voir comme une certaine évolution de l'homme en vue de l'homme parfait du lui-même. On ne voit pas cette évolution, peut-être sous plan technologique, mais disons sous plan de midol, ça ne se voit pas.
Oui, très bien. Alors ça, c'est le problème de la messianité. Je prends la première partie de la question déjà, c'est que effectivement les Toledot, les Toledot, à l'état absolu, commencent avec Abraham. Plus exactement, Yitzhak, fils d'Abraham, et ton autre Yitzhak ben Abraham. Mais à titre de toute l'humanité. Encore une fois, c'est pas pour rien que l'humanité s'est reconnue dans son espérance messianique à sa manière, dans l'espérance messianique d'Israël. Encore une fois, il y a là un fait, enfin, tellement massif dans l'histoire de l'humanité que ça aveugle, alors on ne le voit plus. C'est quand même étrange que c'est dans l'histoire des engendrements d'une petite tribu, petite famille de l'humanité entière, que l'humanité entière va trouver son espérance messianique, la famille d'Abraham. Et sans entrer, encore une fois, dans ce qui nous sépare des chrétiens ou des musulmans, du moins dans ce qui les sépare de nous, ce sont parce que c'est de la séparation. Il y a quand même là, de façon apparemment paradoxale et pleine d'humour, un consensus de nos adversaires que c'est vraiment l'histoire juive qui est messianique. Vous comprenez ce que je veux dire? Et il n'y a que le calendrier hébraïque qui compte le temps de ces 6 jours qui mènent au 7e. Et à l'intérieur de chaque jour, nous avons le même rythme, 6 et 7. Et comme vous savez que c'est dans le calendrier hébraïque que nous sommes, et d'ailleurs nous sommes cette année, c'était signalé, ce qui consistait à l'office de Kippour avec nous, par David Ben Ezra. Cette année, Shnat Tachan, on entre dans la 6e heure du 6e jour, en tant que cosmique. Okay. C'est pourquoi c'est une année très importante pour le calendrier israélien. Et nous sommes à l'année 6000. 5750. C'est la 6e heure du 6e jour du 6e millénaire qui a commencé à Rochelle. 6e millénaire qui a commencé à Rochelle. Et l'heure précédente a commencé à la proclamation de l'État d'Israël. Le début de la 5e heure, c'était Tacha. Et le début de la 6e heure, c'est Tacha.
Vous pourriez
vous
l'expliquer
un peu mieux. Ça, tout ça. Oh là là, alors j'ouvre une parenthèse. Mais rappelez-moi la question. Je vais finir avec la question.
C'était l'évolution du monde et puis des juifs.
Alors, c'est à l'échelle globale que, à l'échelle du clan, qu'il y a, quel que soit nos mérites, qu'il y a cette mutation qui mène à la transfiguration messianique. À l'échelle individuelle, il n'y a pas que l'aspect technologique. Mais ce que je veux dire, ça, il faut le rattacher à l'enseignement de la Gemara Sanhedrin, qu'il y a deux perspectives de l'aboutissement messianique. Ou bien à travers le mérite, c'est Ahishena, vous rappelez du verset d'Isaïe, ou bien à travers la loi des temps, mérite ou pas, Beita. Que tout se passe comme si l'humanité, à travers Israël, et Israël à travers l'humanité, les responsabilités sont partagées. Israël est l'Israël de l'humanité, comme l'humanité est l'Israël. Je veux dire que les juifs ont les goïms qui méritent et les goïms ont les juifs qui méritent. Je ne sais pas si c'est vrai. Ça, je paraphrase un enseignement des rabbins, que les communautés juives ont les rabbins qu'ils méritent et les rabbins ont les communautés qui méritent. Mais c'est très, très, très parallèle. C'est-à-dire qu'on croit bon, ouais. Et alors, je termine. Eh bien, tout se passe comme si l'humanité a choisi la deuxième voie à travers la loi des temps, Beita. Je vous dis quel est le verset. C'est un verset d'Isaïe qui dit Beita Ahishena, en parlant de l'aboutissement messianique de la fin du 6e millénaire. Et vous avez très bien compris que nous sommes à Erev Shabbat. Nous sommes vraiment le vendredi après-midi, alors qu'on prépare le Shabbat qui va arriver. Alors, commencez pas à faire des calculs. Dans tous les cas, ça peut arriver avant le temps si on l'irrite. Mais oui, vous avez un avenir glorieux pour vos arrière-petits-enfants. Mais je vais vous rassurer tout de suite. Pour notre génération. Et alors, il y a une Mishnah dans les Pirkei Avot qui est très jolie à ce sujet. C'est Ayom Katzev, le jour court. Amelacha Meruba, le travail est nombreux. Et les ouvriers sont paresseux. Baal avait dochek et le maître de maison est pressé. Bon, et la fin de la Mishnah, mais il donnera son salaire à quiconque le mérite. Alors on s'est demandé. Tu vois?
J'avais l'impression que c'est avec dans les évangiles, il y a dit, contredit.
Pardon?
C'est dans les évangiles. J'avais l'impression que ça a été repris dans les évangiles.
Ah, c'est possible. Avec le thème de l'ouvrier de l'11e heure, oui. C'est notre thème, enfin, beaucoup d'évangiles sont, ont leur source dans le Talmud. Je ne sais pas si vous savez ça. Okay. Beaucoup de choses du Coran aussi. Bon. Et c'est un thème un peu différent. Okay. C'est plutôt, ça se rattache plutôt au thème que les premiers seront les derniers. Et c'est mal compris. Qu'est-ce que ça veut dire les premiers seront les derniers? Les derniers, c'est les premiers. Okay. C'est les premiers qui seront les derniers. Vous avez compris ce que je viens de dire? Non. Je vais raconter ça par votre voix. Je me rappelle, au moment de la guerre des six jours, je vous ai raconté ça déjà une fois, mais vous n'étiez pas tous là. Je vais vous raconter. Au moment de la guerre des six jours, j'avais deux questions à poser au Rav Kook. Parce qu'on connaissait la date. Vous savez qu'on parle de date, de loi des temps. On connaît des dates, mais c'est interdit de les dire, mais au moment où ça arrive, ça arrive. Et d'ailleurs, ceux qui connaissaient la date de la libération de Jérusalem étaient les plus étonnés. Parce que non seulement c'est vrai, mais c'est vrai que c'est vrai, c'est trop. C'était vraiment secoué. Alors, les deux questions, c'était pourquoi nous, alors qu'il y a eu des générations de grands, de géants, ils ont pleuré, supplié, prié, et eux, galoute, ghetto. Et nous, ça y est, derrière, pourquoi nous? Et deuxièmement, je me demandais, mais alors, si ça arrive à la date prévue par ceux qui connaissaient la date ou la liberté, question bateau, ok. Alors il a commencé par la deuxième question. Il avait dit, je me rappelle toujours le sourire caractéristique qu'il avait dans les yeux. Okay. Alors il disait, si tu apprends qu'une femme est enceinte, d'abord tu dis Mazal Tov, ça c'est moi qui ajoute. Et puis, si tout se passe bien, dans 9 mois il y a un enfant. Ou la liberté. Ou t'es prophète. Donc, ça veut dire, si les choses se passent comme elles doivent se passer d'après la loi des temps, les prophètes connaissaient quelle est la date, quand ça se passe bien. Et d'ailleurs, vous savez très bien que l'analogie de ces deux expressions en hébreu, Chevele Mashiach et Chevele Leda, c'est un enfantement. Alors les prophètes connaissaient le temps de la grossesse du monde, si j'ose dire. On nous a dit, d'après la loi des temps, si tout se passe bien, Baruch Hashem, mais voilà la date. Et ceux qui la savent, taisez-la avant ce moment-là. Qui c'est qui allait attendre pendant 2000 ans en connaissant la date? Dans la perspective que ça arrive en son temps. Alors là, c'est clair, réfléchissez bien, il n'y a pas de mystère. Et la liberté, c'est d'être celui que ça concerne. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Et c'est une liberté colossale. Et l'humanité comprendra un jour ce mystère, comment on a fait pour être là présent au rendez-vous avec le sort que l'humanité nous a fait pendant 6000 ans. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Et on était là, présent au rendez-vous, la Torah en bandoulière, en plus. Et vraiment, c'est inimaginable qu'on ait pu traverser cette histoire humaine pendant si longtemps et être là quand il fallait. Je me souviens très bien que le jour où l'armée israélienne est arrivée au Kotel, je me trouvais dans un bar d'hôtel, là, je sais pas comment on appelle ça. Bref, il y avait tas de journalistes qui arrivaient du monde entier. Ils étaient excités comme c'est pas possible. Enfin, des goïms, excités, malheureusement. C'était, moi, je le regardais comme ça. Vous ne vous rendez pas compte? Les juifs sont arrivés au mur. Le jour fixé. Au pied du mur. Et je me rappelle très bien, depuis les Romains. Ben, imaginez ça. C'est des journalistes cultivés. Et puis nous, on a oublié, on fait semblant que c'est banal. Alors, pour la première question. Alors, il m'a dit, tu demandes, pourquoi nous? Parce que tu ne sais pas qui nous sommes. Tout simplement. Si on savait qui nous sommes, on ne demanderait pas. C'est clair ou pas assez? Alors, c'est là qu'il a ajouté, nous sommes les derniers des derniers et les premiers des premiers. Satan de l'Opirache. Et il s'est arrêté là. J'ai mis longtemps à comprendre ce qu'il voulait dire. Et il a dit, mais Férouz, il a dit, nous sommes les derniers des derniers, aucun mérite, et les premiers des premiers. Alors j'ai compris ce qu'il voulait dire, que nous sommes les derniers des Juifs de l'exil et les premiers des Hébreux de la résurrection. Eh bien c'est ça, les premiers sont les derniers. C'est les premiers qui sont les derniers. C'est avec nous que ça a commencé. Bon, n'ayez pas de cauchemar, mais c'est comme ça. Tu me suggères ?
Il y avait une autre hypothèse, que ça ne se passe pas suivant la loi des temps, voilà. Pour le mérite.
C'est ça. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, et puis je vais vous reciter le verset, semble-t-il, l'humanité a préféré être en retard. Et ils disent que le Messie est en retard. C'est clair ce que je dis ? C'est pas lui qui tarde, c'est nous qui avons tardé. Un jour, si j'ai le temps, je ferai un exposé sur une notion métaphysique très proprement messianique, l'être en retard. Et vous savez que les Juifs sont toujours en retard. Toujours. Et c'est l'humanité derrière qui est en retard. Alors, voilà ce que dit le verset. Be'ita achishena, en son temps, je l'avancerai. Be'ita, en son temps, achishena, j'accélérerai le. Alors, une conversation vraiment que la Gemara met en évidence, Sanhedrin, nous en avons la page 90, dit Im be'ita la ma'achishena, im ma'achishena la ma'be'ita. Elle dit Zaha, il mérite achishena. Dès qu'il mérite, tout de suite. Lo Zaha, il ne mérite pas, c'est qui, votre question, ta question. Beïta. Et Beïta est écrit Bet, Aïn, Tab, et en son temps, Aït, le temps. Alors j'ai lu une fois avec une faute d'orthographe, avec un tête, Beïta. Ça veut dire avec un coup de pied. Beïta. Voilà ce qu'on a mérité, pas plus. Mais en fait, on a quand même un mérite colossal d'être présent au moment du rendez-vous de la loi des temps. Encore une fois, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est énorme. Et je ne sais pas, apprenez l'histoire juive. Et vous verrez à quel point c'est incompréhensible qu'on ait survécu, enfin qu'on ait traversé tout ça. Et qu'on ait traversé tout ça, et qu'à peine arrivé à l'heure juste, d'un coup, l'humanité entière est en transe d'enfantement de l'État d'Israël. Hein, remarquez ça. Et vraiment, les transes absolues, dès que ça bouge à Jérusalem, vous avez une réunion de l'ONU sur le Moyen-Orient. Bon, et alors, quelle était la question ? Alors, effectivement, on est entré à Rosh Hashanah au début de la sixième heure. Alors, ce que j'avais demandé avant, la Gemara nous raconte gentiment, comme ça, tranquillement, je ne vous donnerai pas la référence, ce que le premier homme a fait pendant les 12 heures du sixième jour. Je vous dirai simplement ce qu'il a fait au début de la cinquième heure. Kam al Rarlav, il s'est dressé sur ses pieds. Ça s'appelle la Tekuma. Vous savez que ça veut dire la Tekuma. Alors la sixième heure, il se passe autre chose. Et on est au début de la sixième heure. Et alors voilà, le Gandhi a donné l'explication simple. Chaque jour à 24 heures, il y a 12 heures de nuit, 12 heures de jour. Dans le calendrier hébraïque, il y a d'abord la nuit, ça va jusqu'à l'année 500. Du sixième millénaire, et puis le début de la sixième heure, c'est donc vous divisez 500 par 12, et vous avez le temps d'une heure, c'est 42 années et quelques semaines, quelques jours. Et là, voilà, 42 années et quelques jours que l'État d'Israël a été proclamé, début de la cinquième heure, et on rentre cette année dans la sixième heure. Alors ne demandez pas ce qui va se passer, parce que quand vous le saurez, vous n'allez pas croire quand c'est arrivé que c'est arrivé quand même. Mais la vérité, c'est que j'en sais rien. Mais vous voyez qu'il y a deux registres. Il y a le registre de l'échelle collective qui ne dépend absolument pas des mérites individuels. Il y a une alliance avec la collectivité d'Israël. Et à travers cette alliance avec le clan Israël, il y a une alliance entre Dieu et son monde. Tout le monde y compris. Nous sommes des monothéistes, n'est-ce pas ? Alors c'est pas par hasard. Si vous voulez que l'humanité entière est secouée par les événements de l'engendrement messianique de la société d'Israël. Il n'y a que les juifs qui, par humilité exagérée, font semblant de ne pas s'en rendre compte. Voilà, c'est l'essentiel.
C'est vrai. Vous pouvez pas dire ce qui se passe puisque Adam a fait la sixième heure, mais qu'est-ce qu'il a fait la quatrième heure ?
Mais tout ça, c'est dans la Gemara. Mais, je veux dire, mais c'est dit à la manière du style de la Gemara. C'est-à-dire, comprenne qui pourra. Mais quand les événements arrivent, alors on se dit, émerveillé, ah, ça, c'est ça. C'est clair. Vous avez compris ? Donc. Non, je sens très bien le caractère, enfin, vertigineux de ces choses-là. Seulement, il faut s'habituer à la cohérence de la foi. Si nous croyons, comme foi minimum, que le monde a un créateur et qu'il sait ce qu'il fait, et qu'il a dit à l'avance son programme, si j'ose dire, mettez ça entre guillemets, dans sa Torah, eh bien alors c'est clair. La seule chose étonnante, c'est... Non, c'est pas tellement étonnant, je peux l'expliquer comme ça. C'est tellement vertigineux que l'homme préfère fermer les yeux que de les ouvrir pour lire la Torah. Vous remarquez que chaque fois qu'on étudie, ce livre s'ouvre. D'accord ? Et si on l'étudie pas, eh bien il se tait. Mais alors... on ne peut pas, la voix est à un autre, comme on dit en français, on ne peut pas venir réclamer, ah, on ne savait pas. Et comment on ne savait pas? Mais je t'ai dit tout ce qu'il fallait, ça va.
Que... Mais ça, quand on l'étudie, c'est avec vous, parce qu'un Macharim, on ne l'étudie pas de la même manière.
Hein. Et j'ai pas parlé de Macharim. Vous savez, il y a dans la Gemara.
Je
vais vous dire, je vous garantis que si il y avait l'amour entre les Juifs, mais pour ça dépend de l'amour entre les hommes. Eh bien, on étudierait avec les gens de Mercherie, mais ils seraient d'accord. Donc, mais d'autant plus que la preuve qu'ils sont d'accord malgré eux, c'est que c'est ici qu'ils vivent. C'est ici qu'ils vivent quand même. Okay. Et ce n'est pas seulement des personnages de musée, il y a plus. Bien qu'ils aient un circuit économique autonome, ils aident l'économie d'Israël en faisant venir des devises. Mais, attendez, je voulais ajouter autre chose. Je veux dire, c'est que, est-ce que vous avez suivi dans la paracha de Hazinu, ce qu'on a étudié la semaine dernière? Tout nous était dit en clair. Mais, voilà ce qui vous arrive quand ça vous arrivera, si ça vous arrive. Et pourtant, on ne veut pas voir qu'on était averti. Est-ce que c'est clair?
C'est
clair dans la parasha de Sabine, c'est plus clair dans la parasha de Sabine qu'à Azinou. Mais quoi, pour les spécialistes, c'est beaucoup plus clair dans Azinou que dans la parasha de Sabine. Je veux dire à quoi je pense. Non, il suffit de connaître l'hébreu, mais l'hébreu de qui? L'hébreu des hébreux, bien sûr, pas l'hébreu des grammairiens ou des traducteurs. Mais je veux dire, dans la parasha de Sabine, il y a une ambiguïté apparente qui fait qu'on ne sait pas trancher, si, il faut d'abord faire tchouva par rapport au Shulchan Aruch avant de revenir. C'est entremêlé de manière telle que certains vous disent ah, mais pardon, il faut d'abord faire tchouva et après on verra. Ouais, alors pourquoi tu es venu? Fais tchouva là-bas. Mais, et d'autres vous diront, mais j'avais la Bible, vous ne savez pas lire. Regardez ce que vous dites, le texte en clair. Hein. Mais, tandis que dans Azimou, c'est Baruch. Il suffit de savoir lire, c'est tout. Mais il n'y a pas de difficulté. En tout cas, cette controverse, j'en profite pour le citer, elle est dans la Gemara entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Et chacun cite des versets à bout portant. Rabbi Eliezer dit, il faut faire tshuva, la preuve, ce verset. Rabbi Yoshua répond, sans tshuva, la preuve, ce verset. Et ça continue sur 10 ou 12 versets, et à la fin, la Gemara dit, Rabbi Eliezer shatak, et Rabbi Eliezer s'est tué. Ça veut dire que la controverse a pris fin pour Rabbi Yoshua. C'est clair ce que je dis là? Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a ces deux éventualités. Bien sûr que si on fait Tshuva, alors c'est Arishena. Et il y a tout un arsenal de versets pour ça. Voilà les mérites que vous devez avoir pour que ça vienne. Bimer Rabbi Yamenu, Ba'agla, Vizman Karim. Rabbi Yoshua, lui, connaît son monde. Il sait qu'on va être en retard. Ça arrivera en son temps. Alors, pas question de mérite, que tu le veuilles ou pas. Et je crois que l'humour du bon Dieu a fait que, pour que ce soit bien clair, et après, rappelez-moi, je vous raconte une anecdote, pour que ce soit bien clair, ce sont des Juifs apparemment sans mérite qui ont fait la tshuva, la vraie tshuva, la construction d'Israël. Et c'est vraiment un humour phénoménal, Ken. Je vais vous raconter. Un de mes premiers voyages en Israël, il n'y avait pas encore les avions, on voyageait en bateau, je ne sais pas si vous vous souvenez de ces voyages en bateau, le Nekba, le Kedma. C'était une époque, vous l'avez connu. Alors, ça a duré longtemps. On pouvait se reposer, croisière en Méditerranée. Et puis, il y avait un prêtre avec ses paroissiens qui venaient en pèlerinage. On s'est liés d'amitié. Après tous les psaumes, c'est commun, même si on ne lisait pas de la même façon. Et alors, à un moment donné, il m'a dit, mais enfin, quand même, pourquoi ? On voit bien que les sionistes ont réalisé des prophéties. C'était l'époque de refleurir le désert. Cette imagerie de Erezava Chalabdouvache. Donc, je dis, mais pourquoi ils ne sont pas pieux ? Et j'ai dit, d'abord, c'est une calomnie. Vous savez, en Israël, il y a plus de synagogues au kilomètre carré qu'il n'y en a jamais eu n'importe où. Au mètre carré. Donc, ici, dans ce pays, il y a de la Torah à la tonne. Ailleurs, ils ont un petit peu de Torah, alors ils montrent ça en vitrine. La Torah, c'est nous. Quelle est la Torah ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Okay. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ici, c'est de la dynamite. Et tous ces gosses qui avaient la Torah à la tonne, je dis bien la tonne, vous avez passé la bagroute israélienne, vos enfants vous la font passer. Qu'est-ce qu'ils avalent comme chapitre ? Un jour, ça va éclater. Mais d'ailleurs, ça commence à éclater. Et alors, et je parle des chilonim, okay. Les autres, ils lisent pas la Bible. Ils lisent pas le même. Alors, c'est d'abord, c'est une calomnie. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Et puis, d'autre part, je veux dire, si jamais c'était des juifs pieux qui avaient fondé Israël, remarquez, les juifs non pieux n'étaient pas les seuls, ils avaient des pieux avec eux. Ils avaient bien planté des pieux. Alors, on aurait dit, bon, eh bien, c'est une œuvre humaine, il y a des hommes qui ont une foi. Et ils ont réalisé leur foi. Par exemple, les Mormons. Oui, les Mormons ont décidé d'avoir leur terre promise en Amérique. Et d'ailleurs, ils ont réussi, ils sont riches. Ils n'ont pas de problème économique. D'ailleurs, on devrait avoir un ministre des Finances Mormon. Et vous remarquez, ça ressemble. Mais j'ai jamais entendu parler de Pérez y Mormon. Alors, je dis, voilà. Si ça n'est que des juifs pieux, eh bien, on aurait dit, c'est une œuvre humaine, mais d'Afka, que ce soit des juifs, pas pieux, qui fassent l'accomplissement des prophéties, c'est sûr que c'est Dieu qui le fait, on est tranquille. C'est vrai, c'est... Non, comment on dit, mais c'est pas une blague, hein. C'est pire. Bon, voilà pour vous. D'ailleurs, je crois très très sincèrement que je me mets à la place des sionistes non-croyants, qu'il y a apparemment. Eh bien, il faut avoir une foi dure comme fer pour faire quelque chose à quoi on ne croit pas. Je ne sais pas si vous voyez ce que je dis. Ceux qui ont la foi, là, ils ont la foi, ils ont des raisons. Mais les autres, moi je les admire, comment ils font ? Est-ce que c'est clair ?
Donc,
ça veut dire qu'ils ont une foi d'une nature qui nous dépasse. D'ailleurs, c'est tellement difficile pour eux que des fois ils craquent. Ils vont faire un petit voyage en Amérique pour recharger les accus. Donc, vous avez remarqué que les datim ne sont pas yordim en général, okay. Non. Yordim, enfin les descendants. Les autres, c'est les ascendants.
Comment expliquer que l'humanité est toujours, enfin, même le peuple choisi
peu et pas. Alors ça, on étudie déjà dès l'origine de l'histoire du monde. Je vous ai signalé, il y a derrière un problème métaphysique très important. Les psychologues, je reviens à eux, les psychiatres d'ailleurs, connaissent une série de troubles psychiques qui vient de gens qui courent toujours après leur passé, après leur jeunesse. Ils sont toujours en retard et puis il y a des traumas épouvantables. Vous voyez à peu près de quoi je parle, okay. Mais je crois que c'est très profondément humain. Mais c'est raconté dans l'histoire des patriarches qu'il y a une espèce de tendance au retard. Alors il y a différents types d'explications, mais je veux signaler la source fondamentale. C'est lorsque Jacob revient de l'exil, il avoue qu'il est revenu trop tard. Alors il a peur. C'est « Im laban garti va'echar avata ». C'est un verset qui éclate. « J'ai séjourné chez Laban » et j'ai tardé jusqu'à présent. Alors il a peur. Comment ça va se passer ? J'ai tardé. Et la Gemara surenchérit, comme on dit surenchérit, oui. Quel que soit le mérite, il a peur que le démérite annule. Quel démérite ? Du retard. C'est Maïro Mahet, Elhet, Yahoua. Et bon, je voulais vous dire beaucoup de choses sur cette paracha, mais je vois que l'heure avance. Alors en tout cas, bonne fête. Et on se reverra la nuit de Hoshana Rabba. Est-ce que Alain vous a donné l'heure?
Oui, 21h.
À partir de 21h. Les Zrezim, Magdini et les autres. Ceux qui veulent avoir des places, ne soyez pas en retard. Alors,